Merci de passer la soirée avec nous. On est ensemble en direct jusqu'à minuit. Le mystère autour de la mort du petit Émile est-il en passe d'être résolu? 20 mois que les enquêteurs cherchent à savoir ce qui est arrivé à ce petit garçon de 2 ans et demi qui a disparu au début des vacances scolaires alors qu'il passait quelques jours dans la maison familiale des grands-parents au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. L'enquête se recentre donc autour du cercle familial. Les grands-parents ont été placés ce matin en garde à vue ainsi qu'un oncle et une tante. Il y a beaucoup de questions qui se pose ce soir, qu'on va aborder avec nos invités. Mais d'abord, j'aimerais qu'on se rende à Marseille, où l'on vous retrouve, Pierre Barbin, devant les locaux de la section de recherche de la gendarmerie. C'est là que sont interrogés les 4 gardés à vue. Et ça fait plusieurs heures maintenant qu'ils sont auditionnés par les gendarmes.
Oui, un peu plus de 15 heures précisément que la garde à vue a commencé pour que les 4 personnes, vous l'avez dit, dans le cercle familial du petit Émile, les grands-parents ainsi qu'un oncle et une tante du petit garçon. On sait qu'en ce moment, il y a une audition, la 3e audition précisément du grand-père d'Émile qui a lieu, déclaration faite par son avocate il y a quelques minutes, qui nous expliquait aussi qu'il n'y avait pas eu pour l'instant de confrontation entre ces 4 gardes à vue. Gardes à vue, on le sait, pour homicide volontaire et recel de cadavres qui ont donc commencé ce matin, qui peuvent se poursuivre. Elles peuvent d'abord être renouvelées une fois de 24 heures et peuvent donc se terminer au plus tard jeudi matin à 6h30, puisque tout a commencé ce matin à 6h30, justement, lorsque les grands-parents du petit Émile ont été réveillés à leur domicile par les gendarmes de la section de recherche de Marseille. Ils ont été interpellés puis placés en garde à vue avec donc 2 de leurs enfants, je le disais, un oncle et une tante du petit Émile. Parmi ces 4 personnes, il y a donc Philippe Vedovini, le grand-père, un personnage central dans cette affaire, puisqu'on sait, on se rappelle qu'il était chargé de la surveillance de l'enfant lorsque ce dernier a disparu à l'été 2023. Un de ses véhicules pouvant transporter des chevaux a notamment été saisi lors de la perquisition qui a eu lieu ce matin à la bouilladise, des gardes à vue qui étaient programmées, cela veut dire qu'elles étaient préparées par ces gendarmes de la section de recherche. 20 mois d'enquête, de mystère aussi, et peut-être enfin le début de réponse dans cette affaire Émile, les premières gardes à vue depuis l'été 2023.
Merci Pierre Barbin avec Camille Martin et on continue de suivre l'évolution de ces gardes à vue avec vous. Pour nous accompagner ce soir, nos consultants police-justice, Dominique Rizet et Laurent Valdiguier, rebonsoir à tous les deux. Jacques-Charles Fonbonne, général de gendarmerie, ancien commandant de la section de recherche d'Orléans, est également avec nous. Marilyn Baranès, vous êtes psychologue, experte judiciaire et spécialiste du traumatisme. Et Sébastien Aguilar, bonsoir, vous êtes policier, scientifique, co-auteur de Au cœur de l'enquête criminelle, dans la peau des experts de la scène de crime au assises. Jacques-Charles Fonbonne, la garde à vue est en cours depuis 6h30 ce matin, il est 22h30. Ce que nous disait Pierre Barbin, c'est qu'on en est à la 3e audition du grand-père, il n'y a pas eu de confrontation à ce stade. On en est à quelle phase de l'interrogatoire?
Alors ça va dépendre des éléments dont disposent les enquêteurs. Mais traditionnellement, on essaye de commencer à poser les questions qui dérangent le plus tard possible. D'abord, on fait faire ce qu'il y a dans l'argot des policiers, ils appellent ça un tour de chic. C'est-à-dire qu'on laisse la personne exprimer une version qu'elle a forcément préparée, qu'on va dérouler, on va écrire, on va quasiment pas l'interrompre, sauf à lui demander des détails et des précisions. On fait signer le PV, comme si tout était fini, comme si l'audition allait s'arrêter à ce moment-là. Et puis ensuite, on y revient. On y revient sur des points particuliers que l'on va développer en fonction de la personnalité du gardé à vue, parce que c'est une enquête de très longue haleine, comme vous l'avez dit. Donc on connaît ses habitudes, on connaît ses valeurs, on connaît ses activités quotidiennes. Et puis, à l'aune des éléments matériels dont on va disposer. Monsieur, vous nous avez dit ça tout à l'heure. Comment se fait-il que, dans un même temps, quelqu'un vous ait vu à un autre endroit, vous nous dites que vous avez téléphoné depuis tel endroit, comment se fait-il que votre téléphone borne ? C'est-à-dire qu'en fait, on va rentrer petit à petit dans des contradictions.
Et là, quand on nous parle de troisième audition, ça veut dire qu'on y est, là, on est déjà dans le
sujet. Oui, alors après, ça va dépendre de la façon dont la personne va réagir. On peut avoir, au bout de quelques dizaines de minutes, quelqu'un qui va déjà commencer à donner des éléments, et des éléments qui sont en contradiction avec ce dont on dispose. C'est un jeu de chat et de souris. L'intérêt pour l'enquêteur est de faire croire qu'il est la souris. C'est-à-dire de laisser à penser à celui qui est entendu que finalement c'est lui qui vous manœuvre et ensuite de le ramener, j'allais dire, à la réalité qui le met dans la culpabilité à partir des éléments dont vous disposez.
Avec une garde à vue qui peut donc durer jusqu'à jeudi matin à 6h30, 48 heures de garde à vue possible en fonction de l'évolution de cet interrogatoire. Dominique Rizet, ce sont les toutes premières gardes à vue, il faut le rappeler, hein, ça fait 20 mois d'investigation, ce sont les toutes premières gardes à vue dans cette enquête. Que la piste familiale soit explorée, c'est commun. D'ailleurs, l'hypothèse a été avancée assez rapidement. Pourquoi avoir attendu autant de temps ? Pourquoi ces gardes à vue maintenant ?
Parce que les enquêteurs n'étaient pas prêts, leur dossier n'était pas complet. Toutes ces personnes avaient été entendues, comme d'ailleurs tous les habitants du hameau et d'autres personnes encore, qui ont été entendues, c'était des auditions libres, on leur pose des questions, où étiez-vous, que faisiez-vous ? Et on avait d'ailleurs déjà la version du grand-père qui raconte que Émile s'était réveillé tard, à 17h, d'une longue sieste, qu'à 17h15, il était près de lui, près de sa voiture, que le grand-père a rangé des choses dans le coffre et qu'Émile a disparu à ce moment-là. Donc on avait la version du grand-père, il n'a jamais varié. Et puis on avait des témoignages de personnes, notamment ces deux témoins, qui parlent d'Émile qui descend vers l'aval du village, d'un autre qui parle d'Émile qui remonte vers l'amont du village, vers cette petite cabane qu'il avait derrière la maison de ses grands-parents. Et donc tout n'était pas prêt pour que des auditions dans le cadre d'une garde à vue soient menées. Ça veut dire que les gendarmes avaient besoin d'éléments nouveaux, avaient besoin d'autres choses, avaient besoin d'affiner leurs soupçons, parce que si ces quatre-là sont en garde à vue, c'est que ce sont plus que des soupçons qui pèsent sur eux. Donc d'affiner leur dossier pour pouvoir leur dire ce que le général Fonbonne disait tout à l'heure. Écoutez, c'est bien beau, vous me dites ça, mais le problème c'est qu'on a quelqu'un d'autre qui vous a vu, qui dit vous avoir vu à tel endroit, à telle heure, jusqu'à ce que ça bloque, qu'un petit grain de sable se mette dans l'engrenage et que quelqu'un craque, peut-être. Mm-hmm. Sur les quatre, il y a forcément un maillon faible.
Et d'ailleurs, précisément, quand on lit les mots du parquet ce matin, le parquet qui parle de phase de vérification et de confrontation des éléments recueillis lors des investigations de ces derniers mois, ça veut dire qu'il n'y a pas eu forcément d'éléments nouveaux qui ont déclenché ces gardes à vue, mais c'est plus que le puzzle, petit à petit, est en train de s'assembler.
Oui. Alors, il y a nécessairement quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un élément du puzzle qui ne s'emboîte pas avec le reste. Et c'est évidemment ça sera le moment clé de ces gardes à vue. Peut-être il n'a pas encore eu lieu. Le moment où les enquêteurs sortiront leurs contradictions. Parce qu'il y a en réalité, pour reprendre ce que dit Dominique, il y a deux phases sur lesquelles ils enquêtent. Il y a l'heure de la disparition d'Émile. Il se lève de l'assiette à 17h15. Les gendarmes sont appelés par les grands-parents à 18h15. Il y a une heure pendant laquelle il y a un trou. Donc, ils enquêtent sur ce qui s'est passé dans cette heure. Alors, peut-être ils ont de nouveaux témoignages. Peut-être parce que dans la tribu familiale, ils sont 10 dans la maison. Hein. Il y a les parents, il y a 8 de leurs 10 enfants qui sont présents, plus Émile. Donc, il y a du monde. C'est pour ça qu'ils sont 4 en garde à vue. Hein, parce que les deux, le frère et la sœur, étaient là, vraisemblablement. Et puis, il y a une autre zone d'enquête pour laquelle ils peuvent avoir aussi des éléments nouveaux. C'est dans l'hypothèse d'un accident ou d'un crime, c'est qu'est-ce qui s'est passé quand le corps du petit Émile aurait été déposé. C'est l'infraction de recel de cadavre. Mm-hmm. Et là, dans cette deuxième phase aussi, ils ont peut-être des témoignages, des écoutes téléphoniques, des éléments qui clochent avec les déclarations initiales des grands-parents, dont parlait Dominique à l'instant, les déclarations qui ont été prises à chaud, évidemment, et des frères et des sœurs. Et s'il y a quelque chose qui cloche, ils vont être mis. C'est l'objet d'une garde à vue simultanée. Vous savez bien, mon général, qu'une garde à vue de 4 personnes, c'est quand même assez lourd à organiser.
Oh oui,
surtout dans un environnement familial. Donc ça, c'est l'enjeu.
Qu'est-ce que ça nous dit, d'ailleurs, le fait que ces gardes à vue aient été organisées de façon concomitante?
Ça veut dire qu'on veut peut-être éviter que quelqu'un qui n'aurait pas été pris fasse disparaître des éléments d'accusation, fasse disparaître des preuves, tout simplement. Et puis ça peut vouloir dire aussi que on va jouer sur un double tableau de contradictions. C'est-à-dire les contradictions que chacun va subir entre ses déclarations antérieures, par exemple, des témoignages et ce qu'il va dire maintenant, et puis les contradictions de l'un par rapport à l'autre. Monsieur, votre femme nous dit que vous nous avez dit le contraire tout à l'heure. Il y en a deux qui se trompent, il y en a un des deux qui ment. Et petit à petit, on cherche effectivement celui qui, le premier, peut-être pour se sortir de l'affaire, va dire « Mais attendez, moi j'y suis pour rien, c'est pas moi, mais voilà les éléments que je connais, voilà ce qui s'est passé. » Donc si vous voulez, on va jouer. Alors il y a aussi quelque chose qui symboliquement est intéressant. C'est pas des narcotrafiquants, c'est pas un gang. Les gendarmes sont allés les chercher à 6h du matin, c'est-à-dire en matière de droit commun, au début de l'heure légale. Il a 59 ans, le grand-père, on imagine que sa femme doit être à peu près du même âge. C'est des gens qu'on n'a pas besoin d'aller chercher de vive force. À la limite, on peut les convoquer à la gendarmerie, ou on peut aller chercher à 8h, 9h du matin, je dirais dans un délai normal. Il y a, à mon avis, de la part des gendarmes, la volonté, déjà, de créer une situation dans laquelle on va les fragiliser psychologiquement pour les amener plus facilement à quelque chose que l'on recherche.
Avec peut-être une confrontation qui pourrait avoir lieu dans les prochaines heures.
Si elle n'a pas déjà eu lieu.
Marlene Baranès, la garde à vue, elle se déroule sous les chefs d'homicide volontaire et recèle de cadavres. Alors, c'est vrai qu'on le disait, l'hypothèse de la responsabilité d'un membre de la famille avait déjà été évoquée, mais on parlait plus d'un accident domestique ou peut-être d'une correction qui avait mal tourné. Et là, on est quand même sur des chefs d'accusation qui sont très lourd à ce stade. Est-ce que c'est normal dans le cadre de ce genre de procédure? On vise large et après on réduit ou ça nous donne quand même des éléments d'information?
Je pense que ça nous donne quand même des éléments d'information. Ça fait quand même pratiquement 2 ans que les enquêtes se sont menées. Effectivement, comme disait Dominique, il y a des éléments qui, au fur et à mesure, se sont accumulés. Là, ils ont sûrement eu des éléments nouveaux et je pense qu'ils ont une vraie stratégie. Alors, la vraie question, c'est une des questions, c'est est-ce qu'on a affaire à un accident qui a voulu être masqué? Et donc masqué en famille, par exemple, ou est-ce que on a affaire à un meurtre, éventuellement avec des témoins, éventuellement avec des témoins. Donc cette question-là, le mobile, ça va être quelque chose de très important. C'est un petit garçon quand même de 2 ans. Donc pour quelle raison on voudrait soit tuer ce petit garçon? Soit, effectivement, il y a eu un accident et on veut masquer cet accident et on monte tout un scénario parce que c'est des gens du coin, parce que il faut pas oublier qu'on est dans un monde très secret, aussi très religieux, mais avec une religion plutôt du côté de l'obscurantisme. Il faut pas oublier que ce grand-père a voulu élever ses 10 enfants sans qu'aucun n'aille à l'école. Donc, on a affaire quand même à quelque chose de l'inquiétante étrangeté.
Et il faudra qu'on s'arrête aussi ce soir sur le profil de cette famille, le climat familial, l'enquête de personnalité qui est menée notamment par les gendarmes pour avoir des éléments aussi de contexte autour de cet environnement familial. Mais d'abord, j'aimerais que l'on revienne sur la chronologie des faits, les principales dates, les principaux éléments clés de l'enquête. C'est l'œil de Raphaël.
Et on revient sur les principales dates avec l'aide précieuse de Dominique Rizet et notamment.
Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Dominique. Et on commence par la date évidemment de la disparition, le 8 juillet 2023. Il est un peu plus de 18h, vous le disiez à l'instant, quand les grands-parents d'Émile signalent la disparition de leur petit-fils de 2 ans et demi. Ils en assurent la garde dans leur maison d'été du Auvernais, une maison où se trouvent des oncles et des tantes. Pendant 6 jours, un important dispositif est déployé. Des hélicoptères, il y a 10 hectares qui sont ratissés. Et Dominique, il y a un élément assez troublant, ce sont justement ces chiens qui semblent perdre la piste du petit Émile au milieu même d'une rue.
Alors, il y a quelque chose qui dérange, c'est qu'il y a 2 témoins. L'un qui voit Émile monter, l'autre qui le voit descendre dans la rue du village. Mais à l'endroit où ces témoins l'ont vu, c'est ici que les chiens pisteurs, les premiers chiens, vont perdre la trace d'Émile. Alors, la chose qui pourrait expliquer qu'il ait disparu comme ça, c'est qu'il soit monté dans une voiture. Souvenez-vous, c'est ce qui s'était passé dans l'affaire Maëlys. Les chiens perdent la trace de Maëlys sur le parking de la salle des fêtes où ses parents et elle participaient à un mariage. Le chien s'arrête et on saura plus tard que
Maëlys est monté dans la voiture de Nordal Lelandais.
On avance de quelques semaines, on est le 29 août 2023. Pour la première fois, les parents d'Émile sortent du silence, Marie et Colomban. Dans une interview à Famille Chrétienne, ils remercient leur soutien et ils partagent aussi un message d'espoir. Je cite « Cela ne nous fait pas peur de demander à Dieu un miracle ». On avance encore dans le temps, le 7 novembre 2023, les perquisitions qui se multiplient, 36 perquisitions qui sont menées, notamment dans la maison des grands-parents d'Émile, mais aussi ailleurs, chez tous ceux qui se trouvaient à proximité le jour de la disparition. Il n'y a pas de trace qui est retrouvée du petit Émile, mais il y a des saisies, notamment du matériel informatique. On se rapproche encore un peu plus le 30 mars 2024, peut-être probablement la date la plus importante, la découverte des ossements à 1 km du Auvernais. Une promeneuse tombe sur le crâne de l'enfant. Elle avertit la police qui est formelle, c'est celui du petit Émile, dans une zone qui n'est pas anodine, puisque c'est une zone qui avait été déjà fouillée à plusieurs reprises, notamment par des gendarmes. Oui. Dominique, c'est-à-dire que les gendarmes, ils ont pu passer à côté?
Alors, on a longtemps pensé ça, on a longtemps pensé que l'homme pouvait être faillible, ceux qui l'ont recherché, pas seulement les gendarmes, mais aussi tous les gens du village. Et puis finalement, il semble qu'on s'achemine vers une autre hypothèse, un autre cas de figure. C'est vrai que le crâne d'Émile est retrouvé à cet endroit-là. Et la réponse, elle est peut-être dans la qualification des gardes à vue de ce matin. Je vous rappelle, Raphaël, homicide volontaire et recel de cadavre. Recel de cadavre, ça laisse sous-entendre que Émile, il lui est arrivé quelque chose ailleurs, que son corps a pu être déplacé et là où on a retrouvé son crâne, être déposé après que la zone ait été fouillée.
Et là, à ce moment-là, on est il y a quelques jours, le 13 mars 2025, avec cette chapelle au cœur de l'enquête, une quinzaine d'enquêteurs qui retournent dans le hameau du Auvernais avec un objectif, fouiller l'église Saint-Martin, qui est plutôt une petite chapelle où se rendent souvent les grands-parents d'Émile, oui, parfois même deux fois par jour durant l'été. L'emplacement n'est pas anodin. Cette chapelle, elle est à 30 mètres de l'endroit dont on parlait, où les chiens perdent la trace du petit Émile, et à une centaine de mètres de la maison des grands-parents. La police repart d'ailleurs avec une jardinière pour voir s'il n'y a pas de traces de sang. Est-ce qu'on sait, Dominique, si ça a un lien avec les gardes à vue d'aujourd'hui?
Alors, a priori, selon les informations du service police-justice de BFM TV, qui avait révélé d'ailleurs visite par la gendarmerie de la chapelle et la saisie de la jardinière. A priori, la saisie de cette jardinière n'a rien à voir avec les gardes à vue de ce matin, ou en tout cas, n'a pas déclenché les gardes à vue de ce matin.
Merci Dominique.
Merci Dominique. Sébastien Aguilar, la saisie de cette jardinière, a priori, n'a rien à voir avec le déclenchement de ces gardes à vue ce matin. Néanmoins, ça a été un élément important dans l'enquête. Qu'est-ce qu'on cherche dans cette jardinière? Comment on s'y prend? Et quand est-ce qu'on aura les résultats?
Dans cette jardinière, je pense qu'on n'a rien trouvé à ce jour. Là, ce qui va être intéressant, c'est justement, on a placé donc les personnes en garde à vue ce matin à 6 heures. On a eu une perquisition donc dans la maison dans le sud de la France, à la Bouilladis. Et on a eu aussi un placement sous scellé de deux véhicules. Donc le véhicule donc du grand-père du petit Émile et ce van donc à chevaux. Et donc là, on va avoir aussi donc des recherches de traces et indices à l'intérieur ces éléments, notamment une recherche aussi de traces de sang latente, donc avec un produit qui s'appelle le Blue Star, potentiellement aussi des recherches de traces papillaires, donc avec des petits doigts qu'on peut retrouver peut-être à l'intérieur de ces éléments, et la recherche aussi de traces d'ADN, on va dire de traces de contact, qui vont être intéressants. Alors on parlait aussi vu qu'on est dans un événement, on va dire intrafamilial, trouver de l'ADN à l'intérieur du véhicule du grand-père, c'est pas quelque chose qui est extrêmement pertinent. Par contre, la localisation de cette trace ADN, notamment par exemple dans le coffre du véhicule, ça pourrait être un élément qui est extrêmement déterminant. À côté de ça aussi, on pourrait avoir des données numériques. On sait que les personnes qui ont été placées en garde à vue, on a récupéré les téléphones portables, ouais, de ces personnes. On va avoir des exploitations qui vont être faites par les gendarmes. Et on va pouvoir potentiellement récupérer des informations peut-être déterminantes.
Et je reviens sur ces deux véhicules. Là aussi, question de temporalité, combien de temps ça va prendre pour analyser ces véhicules et pour avoir des résultats?
En fait, tout dépend de ce qu'on recherche. Après, les prélèvements, généralement, peuvent aller très très vite. Ça peut être fait, dans l'après-midi. Après, l'exploitation qui est derrière, généralement, une analyse ADN peut prendre entre 8 et 12 heures. Donc, on peut imaginer que dans une garde à vue qui pourrait durer 48 heures, on pourrait avoir déjà des informations.
Alors justement, on va aller sur le terrain où l'on vous retrouve, Lola Baye, c'est à la Bouilladise, qui est une commune des Bouches-du-Rhône, là où vivent les grands-parents, qu'ont eu lieu donc ces perquisitions au domicile des grands-parents. On l'a dit, deux véhicules qui ont été saisis. Comment se sont déroulées ces perquisitions ?
Alors des perquisitions qui ont eu lieu un petit peu plus tôt ce matin, de la voiture notamment du grand-père maternel ainsi que de la remorque pour chevaux, et qui provoquent avant tout la stupeur ici à la Bouilladise, beaucoup d'incompréhension aussi suite à ce coup de filet du cercle familial très proche du petit Émile. Je vous propose d'écouter le témoignage de la voisine des grands-parents maternels au micro de Jules Bedeau.
Ah mais on est sous le choc. Je veux dire, c'est un village qui est, nous, ça fait pas longtemps qu'on est ici. C'est un village qui est tout petit. Et là, on se demande si c'est la vérité, si on fait un cauchemar, si c'est vraiment très très compliqué, parce que dans nos propres rues, on voit des caméras, on voit des filles partout. La télé, on ouvre les médias, ben c'est l'histoire du petit Émile. Je pense énormément aux parents qui aujourd'hui doivent être très 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 troublés de voir ça et de s'imaginer un tel dégât. Mais bon, voilà, on va laisser faire la justice. Pour l'instant, il n'y a rien de précis. Et puis, on va être optimiste sur ce côté-là. Des gens très, très bien. Et puis, ils avaient la religion, la foi. Donc, ils aimaient les gens, ils aimaient la vie. Voilà, c'était des gens, aujourd'hui, dans la commune, qui étaient très, très, très agréables.
On le rappelle, hein, l'enjeu de ces gardes à vue, ça va être avant tout de confronter les récits du grand-père, de la grand-mère, de l'oncle et de la tante pour voir si ça concorde. Est-ce qu'ils n'auraient pas omis certains détails ? Est-ce qu'aussi de nouveaux noms peut-être peuvent émerger ? L'objectif des enquêteurs, ça va être avant tout de conduire les interrogatoires pour voir si ça peut mener à des éléments supplémentaires, aussi peut-être à des indices graves et concordants qui peuvent mener à une éventuelle mise en examen. On le rappelle en tout cas, hein, toutes les pistes sont envisagées dans cette affaire qui dure depuis plus de 20 mois.
Merci Lola Baye avec Jules Bedeau. Sébastien Aguilar, j'aimerais qu'on revoie l'image de cette remorque à chevaux qui a été saisie, qui est enroulée, recouverte de plastique. Et on entend souvent ça, ce terme, faire attention de ne pas polluer les éléments d'une enquête ou de polluer une scène de crime. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, polluer, et quelles conséquences ça peut avoir pour le travail des enquêteurs ?
Bon, en fait, tout simplement, polluer une scène de crime, c'est déjà apporter des éléments, des traces matérielles par les enquêteurs ou par différentes personnes, mais aussi en effacer des traces qui sont pertinentes. Donc là, en tout cas, ça a été l'objectif de préserver, on va dire, l'extérieur du véhicule. Après, ce qui va être extrêmement intéressant pour les enquêteurs, c'est tout ce qui est à l'intérieur, donc de faire des révélations de traces latentes de sang, peut-être des révélations de traces papillaires. On peut très bien imaginer aussi, on a récupéré donc des vêtements du petit Émile donc il y a un an, potentiellement aussi de rechercher des fibres de ces vêtements, donc de faire des comparaisons entre les fibres de ces vêtements avec l'intérieur de ces deux véhicules pour pouvoir faire peut-être un lien.
Mais ces deux véhicules, ils peuvent encore parler 20 mois après, si tant est qu'il y ait eu des preuves à l'intérieur de ces véhicules ?
Alors forcément, plus on attend, oui, et plus les chances de retrouver des choses s'amenuisent. Mais maintenant, on est avec l'IRCGN, donc l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, où tous les moyens sont mis pour rechercher le moindre trace.
Laurent, ça nous dit quoi ? Il y a une concomitance entre ces gardes à vue et ces perquisitions, parce que ces perquisitions, elles auraient très bien pu avoir lieu en présence des grands-parents. Qu'est-ce que ça nous dit ?
C'est vrai que ce matin, c'était le choc de ces quatre perquisitions, de ces quatre auditions simultanées à 6h30. Et puis dans la foulée, en direct, c'est l'arrivée d'abord du camion de la remorque là pour emporter c'est vrai que c'est un choc. Alors est-ce qu'il y a des possibilités de retrouver, c'est à sa compense, du sang d'Émile dans la remorque, peut-être aussi que demain tout le monde sortira et que les enquêteurs diront et on a fait une levée de doute. Hein. Oui. Il faut quand même être prudent.
Oui,
c'est pas parce qu'ils ont des doutes. C'est pas parce qu'ils déclenchent cette opération, on est quand même dans quelque chose d'assez banal, de voir dans un cercle familial la famille soupçonnée. Hein. Donc, alors, c'est vrai que là, tout c'était anormal, puisque c'est une affaire hors norme et que ça fait 20 mois. Mais peut-être que la levée de doute, que les explications des uns et des autres, permettra de lever les doutes. Mais c'est vrai que le plus spectaculaire dans la journée d'aujourd'hui, c'est cette remorque, avec donc le soupçon qu'elle porte en elle, de pouvoir retrouver des indices scientifiques suspects pouvant conduire à la mort d'Émile ou au transport de son corps.
Et Jacques-Charles Fonbonne, vous disiez justement tout à l'heure, voilà, on n'a pas affaire à des trafiquants de drogue, on a affaire, bon, à des grands-parents, donc on aurait pu les interpeller un peu plus tard, on n'était pas forcément obligé de les interpeller si tôt. Donc ça nous dit quelque chose. Est-ce que le fait que les perquisitions aient lieu en même temps que les gardes à vue, là aussi, ça donne quelques indices?
Alors, pas forcément un indice, mais on va dire que c'est une nécessité de l'enquête. C'est-à-dire que si on met les gens en garde à vue sans perquisitionner, c'est-à-dire sans rechercher des éléments qui sont susceptibles d'éclairer l'enquête, ça veut dire qu'on livre la possibilité de les faire disparaître à d'éventuels complices. On peut être en face, je dirais, d'un acte commis de façon concomitante par plusieurs personnes. Si on vient perquisitionner, c'est qu'on a des doutes contre les personnes, on n'a aucune raison à ce moment-là de ne pas les mettre en garde à vue pour les entendre. Donc on fait tout en même temps, tout simplement. C'est-à-dire qu'une équipe d'enquêteurs va procéder avec l'IRCG, c'est-à-dire avec les moyens de police scientifique, aux constatations. Et en même temps, on commence la garde à vue.
Et est-ce que c'est banal? Je vous pose, pardonnez-moi, des questions naïves, mais est-ce que c'est banal de saisir ce que l'on trouve, de saisir les véhicules que l'on trouve, ou est-ce que c'est parce qu'on a des doutes, qu'il y a des indices?
Alors, c'est banal parce qu'on a forcément des doutes, parce que forcément, s'il y a des indices, on a une chance, même si 20 mois après, on va dire qu'elle est petite, mais vous imaginez bien que dans une affaire pareille, on ne peut pas ne pas le faire et prendre le risque de passer à côté de quelque chose. Admettons qu'il y ait des aveux. On soit en face des personnes ou l'une d'entre elles qui ait commis les faits et que, ou que ces aveux interviennent pendant l'instruction, par exemple, dans quelques semaines, quelques mois, que la personne donne un élément matériel que l'on aurait pu trouver, qu'on aurait pu vérifier et qui a disparu tout simplement parce que la voiture a été vendue, parce qu'elle a été détruite, parce qu'elle a été laissée aux intempéries, mais qu'on aurait pu trouver un élément probatoire. On ne peut pas se permettre une telle négligence.
Dominique Rizet, dans le communiqué, le procureur dit donc qu'il y a ses gardes à vue, il y a ses perquisitions, il parle aussi d'autres actes criminalistiques qui sont menés. On pense à quoi? De nouvelles auditions?
On pense à tout un tas d'investigations. Le général Fonbonne en parlait à l'instant, des perquisitions dans les domiciles, la saisie des voitures, la police scientifique qui va être faite sur les voitures. On pense à d'autres choses qui peuvent être, Sébastien Guillard disait tout à l'heure, peut-être retour sur la téléphonie. On a peut-être de leur côté les enquêteurs, je rappelle que tous les téléphones qui ont borné au Auvernais ont été vérifiés, identifiés. On a peut-être des questions à poser.
La famille
à certaines
a été mise sous écoute téléphonique?
Bien sûr, la famille a été écoutée, c'est logique. Elle doit même toujours être écoutée parce que pendant que ces quatre personnes sont en garde à vue, il y a peut-être des membres de la famille qui se téléphonent ou des choses qui se racontent.
Est-ce qu'on sait quels membres de la famille ont été placés sous écoute?
Non. Et quand je dis ça, j'imagine. Ouais. Et c'est juste un travail classique d'enquête, hein, voilà. Mais donc tout ça est analysé et on a peut-être découvert des choses, entendu des choses au cours de conversations téléphoniques. On a peut-être découvert que des personnes qui ne disaient pas être là, leur téléphone ont borné à cet endroit-là, ou que des personnes qui n'étaient pas là, qui disaient ne pas être ici, voilà, l'inverse. Il y a peut-être des téléphones qui ont été coupés. À certains moments, je vous rappelle que dans certaines enquêtes judiciaires, il y a criminels, en tout cas, des personnes qui coupent leur téléphone et qui n'ont pas l'habitude de le couper.
Donc on va leur dire comment c'est fait. Ça donne des éléments aussi d'information.
Ce qui interroge quand même, en général, c'est le fait que très tôt, quand même, après la perquisition, on ait vu ce camion venir chercher la remorque pour les chevaux. Est-ce que c'est naturel dans une perquisition de commencer par ça?
Non.
Ou est-ce qu'il y avait vraisemblablement, c'est ce qu'on peut supposer, un témoignage, un indice, une écoute téléphonique, chose qui les conduise dans cette
remorque? Un élément supplémentaire, comme le disait Dominique, c'est-à-dire qu'en fait, les questions, c'est dans quelles circonstances et par qui cet enfant a été tué, où le corps a-t-il été conservé, puisqu'il y a recel de cadavre il y a soupçon de recel de cadavre dans les éléments juridiques qui motivent la garde à vue, et ensuite où a-t-il été déposé, par quel vecteur. Donc, on n'a pas le lieu de la scène de crime, mais selon les éléments dont disposent les enquêteurs, ils peuvent imaginer que le vent a servi au transport, sinon on ne voit pas comment il y aurait l'élément pénal de recel de cadavre s'il n'y avait pas cette logique de déplacement hors du lieu où le corps ou l'enfant a été tué.
Sébastien Aguilar, c'est pas banal d'aller inspecter un remorque à chevaux, c'est qu'il y a forcément des éléments qui ont mis les enquêteurs sur cette piste-là.
Effectivement, il y a probablement un élément qui a permis d'orienter vers cette remorque. Après, est-ce que c'est potentiellement sur les vêtements du petit Émile? On a retrouvé peut-être des poils de chevaux qui permet peut-être de faire le lien. Aujourd'hui, je pense que ce qui va être extrêmement intéressant, on n'en parle pas beaucoup aussi dans cette affaire, mais ça va être l'exploitation des données numériques, notamment des téléphones portables. Bon, maintenant, sans trahir un secret de Polichinelle, on sait très bien que quand on exploite un téléphone portable, on va avoir accès aux conversations, aux photos, vidéos, aux SMS qui ont été envoyés, aux réseaux sociaux, mais aussi aux historiques de navigation. Et alors, je pars sous le contrôle de Dominique, mais par exemple, dans l'affaire Norda-Lelandais, on savait qu'on avait une fameuse phrase qui avait été tapée sur son téléphone, « Comment cacher un corps ?» ou « Comment se débarrasser d'un corps ?»
Son ordinateur.
Ce qui a permis justement de rapprocher donc à la disparition de Arthur Noyer. On se rappelle aussi, puisque ça fait quasiment 10 ans jour pour jour, le crash de la Germanwings. On avait récupéré donc l'ordinateur de Andrea Lubitz, donc qui était le copilote de l'avion, et on a vu donc son historique de recherche sur notamment la sécurité du cockpit, comment se suicider. Donc c'est des informations qui sont extrêmement importantes. Et aujourd'hui, je pense que les enquêteurs récupèrent donc ces informations et vont exploiter tout ce qu'ils peuvent à l'intérieur de ces appareils.
On disait tout à l'heure, c'est vrai que si on retrouve l'ADN, si on retrouve du sang d'Émile dans la voiture de son grand-père, des cellules épithéliales, des cheveux, des éléments de ses vêtements, des fibres de ses vêtements, ça n'a rien d'étonnant puisque c'est le petit-fils du grand-père. Et puis si on retrouve un peu de sang ou idem dans le vent, la fameuse remorque à chevaux, pourquoi est-ce que cet enfant, quand la remorque était ouverte, serait-il pas monté dans cette remorque qui aurait pu laisser quelque chose?
Ce ne sera pas une preuve absolue.
Mais je répète ce qu'on disait tout à l'heure. C'est moins surprenant que quelque chose d'accablant quand on dit à Lelandais, écoutez, maintenant il y a une trace de sang de Maëlys dans votre voiture, elle est montée dans votre voiture. C'est moins discriminant et déterminant que quand on retrouve l'ADN mitochondrial partiel d'Estelle Mouzin sur un matelas dans une maison fournirait dans les Ardennes à Ville-sur-Mur. Bon, on dit à Monique Olivier, donc elle est venue. Bah oui, elle est venue. Son sang est sur ce matelas dans une maison qui est à 350 km de l'endroit où elle a été enlevée. Oui, mais dans ce cas-là, là encore, le fait que ce soit quelque chose qui se passe, Laurent disait tout à l'heure, un huis clos, ça complique un peu les choses. Bon, évidemment, si on trouve une tache de sang énorme, ça peut être la même chose.
Même une tache de sang d'Émile dans la camionnette, il faudrait quand même pouvoir l'expliquer.
Oui, c'est ça. Mais ça va faire partie des questions que les enquêteurs vont poser en amont du moment où ils vont dévoiler cet élément. Est-ce que votre petit-fils était autorisé à monter dans le vent? Parce que c'est dangereux. Est-ce que vous avez vu déjà qu'il y soit monté? Est-ce que par jeu, il n'aurait pas pu jouer avec ses cousins, avec ses cousines? Non, c'est pas possible. Je ferme toujours le véhicule. Il n'est pas question. Je suis un grand-père sévère. On est évidemment dans le scénario. Il n'est pas question qu'il ait pu monter à mon insu ni à l'insu de personne parce que nous sommes 10, 12 dans la maison. Bien, comment expliqueriez-vous à ce moment-là qu'on ait retrouvé des poils de chevaux, qu'on ait retrouvé son sang à l'intérieur de la cabine?
Ouais, c'est ça, vous commencez par des questions un peu banales sur les habitudes et voilà, vous enregistrez les réponses et après vous confrontez aux fameux éléments qui ont été relevés par la police scientifique, entre autres. Il y a l'étude effectivement numérique, l'étude de la téléphonie et puis il y a les auditions. On sait qu'il y a des nouvelles auditions qui vont être menées. L'oncle et la tante sont placés en garde à vue. Est-ce qu'on peut imaginer que leurs conjoints, s'ils en ont, leurs proches, les autres membres de la famille, peut-être même les parents, soient de nouveau entendu là dans les prochaines heures?
Oui, c'est-à-dire qu'on peut, au stade où en sont les enquêteurs, ils ont toutes les possibilités que leur offre le code, c'est-à-dire s'ils ont, puisque c'est la règle, s'ils ont des éléments plausibles qui laissent à penser que les gens ont commis les infractions, ils vont pouvoir les placer en garde à vue. Maintenant, parallèlement à ces gardes à vue, alors auxquels il peut être mis fin à n'importe quel moment, on peut reprendre d'autres personnes en garde à vue à la lumière de ce qui aura été dit, par exemple, pendant les premières gardes à vue. Et également, on peut avoir des auditions de témoins, c'est-à-dire des gens qui auraient, par exemple, fait des premières déclarations et qu'on va réentendre pour leur faire préciser des choses ou parce qu'il y aura des contradictions, parce que les témoins se trompent de bonne foi et qu'on a besoin d'éclaircir ces points pour pouvoir interroger les personnes qui sont en garde à vue sur des détails particuliers et la recherche de la contradiction.
On va retourner justement à Marseille, devant les locaux de la section de recherche de la gendarmerie où vous trouvez Pierre Barbin et où sont entendus les quatre gardés à vue. Première garde à vue, je le rappelle, sur cette enquête qui dure depuis 20 mois. Maintenant, les grands-parents maternels, un oncle et une tante, sont entendus depuis 6h30 ce matin par les gendarmes. Comment se passent ces auditions ?
Exactement, elles ont commencé il y a plus de 16 heures maintenant. On sait qu'actuellement il y a une troisième audition du grand-père qui est en cours, la troisième donc depuis le début de la journée. Déclaration faite par son avocate il y a quelques minutes, qui nous a aussi confirmé qu'il n'y avait pas eu de confrontation pour le moment entre les quatre personnes gardées à vue qui ont été interpellées donc ce matin à 6h30 à leur domicile de la Bouilladis. Ils ont été interpellés puis placé immédiatement en garde à vue. Parmi ces quatre personnes, il y a donc Philippe Vidovini, le grand-père d'Émile, un personnage central dans cette affaire, puisqu'il était en charge de la surveillance du petit garçon lorsqu'il a disparu à l'été 2023. En tout cas, ces gardes à vue se poursuivent actuellement. Elles peuvent être prolongées une fois et se terminer au plus tard, donc jeudi matin à 6h30. On sait aussi que ce moment était programmé. Les gendarmes de la section de recherche de Marseille avait préparé ses gardes à vue depuis quelques temps maintenant. 20 mois de mystère, 20 mois d'enquête et peut-être enfin des réponses avec donc ses premières gardes à vue dans l'affaire Émile.
Merci beaucoup Pierre Barbin. On vous retrouve dans les prochaines minutes pour suivre ces gardes à vue. Jacques-Charles Bonbonne, j'aimerais qu'on revienne quand même sur les qualifications pénales aujourd'hui qui sont, pour l'instant, qui sont retenues. La garde à vue se déroule sous les chefs d'homicide volontaire et de recel de cadavre. Donc recel de cadavre, on le disait tout à l'heure, ça veut dire que potentiellement le corps du petit garçon a été caché, et on parle d'homicide volontaire. Précisons quand même que le cadre de cette garde à vue, il peut évoluer.
Oui, bien sûr. Alors, non seulement le cadre, il y a plusieurs éléments. Non seulement le cadre de la garde à vue peut évoluer, la qualification pénale, elle peut évoluer, mais jusqu'à la dernière décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en fonction des éléments matériels qui auront été relevés par les enquêteurs. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que traditionnellement, on ouvre toujours une enquête sous la qualification la plus grave. Ce que l'on demande dans une enquête criminelle aux enquêteurs, c'est la loyauté dans la procédure. C'est-à-dire que s'ils ont des éléments qui laissent à penser qu'il s'agit d'un homicide, d'un meurtre ou d'un assassinat, ils ont l'obligation d'ouvrir au criminel. Mais ça induit quelque chose. C'est-à-dire que à partir du moment où l'on conduit l'enquête, la garde à vue, pour l'infraction d'homicide volontaire, on est dans une affaire criminelle et ça veut dire que l'on filme la garde à vue. On enregistre l'ensemble des débats, on met la caméra en marche, il est 6h du matin, nous procédons à l'audition de monsieur ou de madame Untel. Voici, je suis l'officier de police judiciaire, l'adjudant, le capitaine Untel, et nous commençons l'audition. Si l'on est dans une infraction délictuelle, il n'y a pas d'enregistrement. Si c'est un homicide involontaire, c'est une infraction délictuelle. Imaginons que les enquêteurs aient des éléments qui justifieraient objectivement, honnêtement, une affaire criminelle. Mais qu'ils disent, on va être malin, on va demander une garde à vue pour homicide involontaire, on est donc sur une affaire délictuelle et donc on ne filme pas. Ça va être considéré comme un élément déloyal dans la manifestation de la preuve et on va casser la procédure. Donc si vous voulez, on agit toujours dans la situation où la personne qui est mise en cause bénéficiera de la meilleure protection, bénéficiera des droits. Si la personne paraît pas en bonne santé, même si elle vous dit « j'ai pas de traitement médical, je vais tout à fait bien », l'officier de police judiciaire, s'il a un doute, prendra toujours l'initiative d'appeler un médecin et de confirmer, par exemple, les déclarations de la personne.
Marlène Baranès, sur le déroulé de cet interrogatoire, Pierre Barbin nous expliquait, troisième audition ce soir du grand-père, pas de confrontation à ce stade, c'est ce que dit l'avocat de Philippe Vidovini, le grand-père. Et vous nous disiez tout à l'heure, effectivement, on n'a pas affaire à des trafiquants de drogue, donc on est face à des grands-parents, à des, excusez-moi de l'expression, des monsieur et madame tout le monde, et il y a un choc psychologique qui se fait de toute manière à partir du moment où vous êtes interpellé, où on vous place en garde à vue et qui vous met dans certaines dispositions pour ensuite parler.
Oui, ça c'est certain. Se faire réveiller à 6h30 du matin avec des gendarmes qui vous disent suivez-nous, vous êtes en garde à vue, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement choquant et qui va venir déstabiliser les gens. Parce que je crois qu'on n'a pas le droit de leur dire tout de suite pourquoi.
On leur donne la qualification pénale de l'infraction.
Dès le début de l'interrogatoire.
Vous êtes en garde à vue pour homicide volontaire.
Voilà, pour homicide volontaire. Ouais. Et après, tout va commencer.
Mais sans préciser les éléments.
Oui, sans préciser les éléments, tout va se passer dans les bureaux. Alors, un, c'est complètement déstabilisant, mais je pense que c'est fait pour. Et puis, je crois que dans cette affaire, il va y avoir quand même des éléments très importants qui vont être les profils psychologiques de toute cette famille. Alors c'est vrai que je sais pas encore si c'est sûr ou et certain, mais en tout cas sur certains appels il y aurait eu des dissensions dans la famille, et peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils ont décidé d'interpeller et les enfants et les grands-parents. Peut-être que dans ces problèmes familiaux, il y a des choses qui vont sortir. Et en tout cas, alors oui, ils vont être choqués, mais je crois que c'est le but là, pour le coup, c'est vraiment le but, pour essayer de, parce que quand on est choqué, on a du mal à raisonner. Donc en fait, comme on raisonne plus et qu'on a de nombreuses questions et des questions qui vont aller dans tous les sens et qui vont venir montrer aussi les contradictions éventuelles qu'on a dites, en fait, ça va amener la personne, parce qu'elle ne peut plus raisonner, ça va amener la personne à finir par dire quelque chose.
Et donc, il y a une volonté de les mettre dans cet état de choc psychologique.
Alors, c'est la garde à vue, vous êtes forcément dans un rapport de force. C'est pas un rapport de violence, on parle pas mal aux gens, on les frappe pas, on les insulte pas, évidemment, mais on vient vous chercher chez vous, on vous enlève vos bacs, on vous enlève vos vêtements, on vous enlève vos souliers, vous êtes un va-nu-pied. Vous êtes forcément en position d'infériorité. Au bout de 10 heures, 12 heures, vous commencez à pas être rasé, vous vous sentez mauvais, vous n'êtes pas changé, vous n'êtes pas lavé les dents, vous n'avez pas pris de douche, vous êtes dans une cellule, dans les gendarmeries, les cellules de garde à vue, ça fait 2 mètres sur 3 mètres, vous avez un bafflant qui est en béton, qui fait 80 cm de large, une couverture, maintenant elles sont à usage unique, mais il y a une époque où elles n'étaient pas toutes de la première jeunesse, vous avez des WC avec la commande des WC qui est à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est le gendarme qui va l'actionner pour des raisons de sécurité. C'est éclairé tout le temps pour qu'on puisse voir que vous ne vous attendez pas à vos jours. Il fait pas très chaud, c'est vraiment pas du tout confortable. Vous êtes forcément à un moment donné dans une position qui est une position de faiblesse. Évidemment, c'est évidemment une épreuve, et c'est un élément qui va évidemment jouer en faveur de en faveur des forces de police.
Et ils sont accompagnés pendant cette garde à vue de leurs avocats.
De leur avocat s'ils le souhaitent.
Et s'ils le souhaitent. Et on a entendu d'ailleurs l'avocate du grand-père qui s'est exprimée aujourd'hui.
On s'attendait à un dénouement rapide, puisque grâce à vous, les médias notamment, on avait appris qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées. Peut-être que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas ce qu'on avait escompté, mais bon, après vous le savez mieux que moi, être placé en garde à vue, ça veut rien dire. Voilà, c'est une mesure dans l'enquête, et on verra au terme de la garde à vue.
Ouais, Dominique, c'est pas le scénario imaginé par le grand-père, c'est ce que dit son avocate, mais qui sentait quand même bien que l'enquête était en train de s'accélérer ces derniers jours.
Évidemment, l'enquête s'accélérait, et puis cette avocate qui dit on a appris par les médias, voilà, l'histoire de la jardinière, l'histoire de la fouille de la chapelle. C'est intéressant parce que en même temps, on a l'impression que l'édifice qui était celui de la famille est en train de se fissurer. Je ne suis pas en train de vous dire que ils sont coupables ou qu'on pense qu'ils sont coupables, mais ce qu'on a connu au début quand on racontait, Laurent, l'histoire de cette famille
très soudée
qui priait dans cette chapelle, qui demandait à Dieu de faire le travail des enquêteurs, de lui rendre Émile, voilà, ou d'aider les enquêteurs à faire leur travail. Il semblerait que ce groupe-là se soit un peu scindé, puisque depuis quelque temps, il n'y avait plus une seule avocate, donc l'avocate qu'on vient de voir, Isabelle Colombani, pour tout le monde, mais il y a déjà une ou deux personnes qui avaient pris d'autres avocats, et là maintenant, en tout cas, pour les 4 personnes qui sont en garde à vue, elles doivent avoir chacune de ces personnes son avocat. Donc ça veut dire qu'il y aura des avocats qui vont pas forcément aimer les autres, des avocats qui vont dire à leurs clients, vous savez, les intérêts de votre grand-père maintenant, jeune oncle ou jeune tante d'Émile, c'est plus les mêmes, parce qu'il semblerait que votre grand-père, on appuie un peu sur ce personnage de l'histoire,
Ou, à l'inverse, hein, ça peut être le jeune qui sait des choses et de la même façon, les avocats vont dire méfiez-vous de lui. Et à partir de maintenant, chacun va jouer pour lui, va jouer en solo, conseillé par son avocat.
Et alors justement, Laurent, je vais vous donner la parole dans un instant, mais j'aimerais bien qu'on écoute l'avocat, cette fois, de la grand-mère, ben voilà, qui s'est aussi exprimée. Ouais.
Il est évident que faire l'objet d'une garde à vue est toujours une épreuve, mais comparé à celle dont a été victime cette famille depuis ce drame, il est évident qu'il s'agit là d'une mesure à laquelle ma cliente entend se soumettre, dans la mesure où les services d'enquête ont estimé qu'elle était utile à la recherche de la vérité. Et à cette heure, ma cliente n'a pas d'autre espoir que voir un jour la lumière faite sur le drame dont sa famille a été victime.
Laurent Valdiguier, Jacques-Charles Fonbonne était en train de me dire que c'est pas forcément obligatoire d'avoir des avocats distincts. Néanmoins, Dominique le disait il y a un instant. En fait, là, ça va être chacun va défendre son client. Est-ce que ça nous dit quand même quelque chose d'avoir deux avocats différents?
Oui, et puis ça nous dit, comme disait Dominique, la famille va découvrir, parce qu'ils vont avoir accès au dossier d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que par les questions pendant 48 heures, va découvrir l'ampleur des investigations. Qui ont eu quand même lieu depuis 2 ans, des écoutes téléphoniques, des surveillances, des témoignages. Donc c'est vrai que cette famille, encore une fois, il faut être très prudent. Peut-être que cette famille va sortir avec des levées de doutes, hein, et les enquêteurs ont dénoué le soupçon. Et peut-être que cette famille va vivre aussi après le poids du chagrin, le poids du soupçon.
Valentin Doyen nous a rejoint. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'affaire Émile que vous avez suivi depuis le début. On évoquait tout à l'heure ces écoutes téléphoniques au sein du clan familial. Que nous disent ces écoutes téléphoniques? On entend qu'il y aurait eu des dissensions familiales. On parlait d'un clan extrêmement soudé au début de cette affaire. Est-ce qu'il y a vraiment eu des dissensions familiales ces derniers temps?
Il y a eu des points de crispation ces dernières semaines et surtout ces derniers mois. C'est vrai qu'au début de l'affaire, il y avait un clan qui était très soudé. Derrière le grand-père, le patriarche, la famille Vedovini. Et puis, au fur et à mesure des semaines et des mois, il y a eu un fort sentiment de culpabilité chez les grands-parents, chez Philippe et Anne. Et puis, quelques difficultés aussi de communication, puisque il y a eu des événements notables, et je pense au plus symptomatique, c'était les obsèques, et notamment le choix du lieu de sépulture pour le petit Émile. Il y avait les parents, Marie et Colomban, qui voulaient absolument que leur enfant repose au cimetière du Haut-Vernay, qui est juste collé à l'église Saint-Martin, dans le hameau du Haut-Vernay. Ils ont fait la demande, ça a été accepté pour Émile, une sépulture individuelle, et puis au moment de demander une sépulture familiale, là, ça a été refusé par le conseil municipal du Vernay. Les parents n'étaient vraiment pas contents. Et par la voix de leur avocat, Maître Triomphe, ils ont exprimé leur désapprobation vis-à-vis de cette décision municipale. Et dans le même temps, eh bien, on sait que Anne et Philippe, les grands-parents, eux, poussaient pour que les obsèques ne se déroulent absolument pas là-haut, mais qu'elles se déroulent à la Bouilladis, dans le village familial. Là, ça a été un point vraiment difficile, puisque au moment des obsèques, le 8 février, pour être précis, ils ont fait parvenir un communiqué par la voix de leur avocate, Maître Isabelle Colombani, et là, ils remerciaient, eux, presque le conseil municipal et le maire, François Balic. Donc là, il y avait vraiment un moment difficile. Et puis, on a tous ces images en tête. Ce jour-là, ce samedi-là, Philippe Vedovini, qui accueille tous les invités aux obsèques, il les enlace, il a un mot pour chacun, une accolade, et au moment où arrivent Colomban et Marie, pas un regard, pas un geste, c'était difficile, c'était tendu, et au moment du départ aussi, on était présents sur place, nous les journalistes, on a vu vraiment deux familles partir chacun de leur côté.
Ouais, ce clan qui s'est dessoudé au fur et à mesure de ces investigations. Vous avez passé beaucoup de temps au Vernay, vous avez rencontré les habitants sur place. Est-ce que cette hypothèse d'un drame familial et peut-être même d'un acte volontaire, est-ce que c'est une hypothèse qu'on a envisagée parmi les habitants?
Bah oui, c'est une hypothèse qu'on envisageait comme plein d'autres hypothèses. Il y a eu, c'est une histoire aussi de séquence, cette affaire. Souvenez-vous, il y a eu la séquence du jeune agriculteur qui roulait trop vite. Il a été suspecté. Et puis, il y a eu les ouvriers bulgares également qui avaient travaillé sur une dalle. On avait retrouvé quelque chose d'étrange où cette dalle avait été complètement explosée. Et là, il y avait eu un coup d'accélération. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la famille dans ce genre d'affaires fait toujours partie de l'équation. Donc moi, j'ai eu plusieurs habitants avant de venir ici qui m'indiquaient qu'ils n'étaient pas sûrs. Oui, ils regardaient la télévision, mais ils voulaient savoir ce qui allait en découler, puisque comme la Dominique l'a dit, une garde à vue, ça veut dire des choses, mais on peut aussi finir cet épisode avec une ressortie, avec une des personnes qui sortent libres de cet épisode et de ce nouvel acte judiciaire.
L'acte volontaire, Valentin, on n'en avait jamais parlé. L'hypothèse d'un homicide volontaire du grand-père, peut-être un homicide involontaire,
on
oui.
On n'a jamais fait de garde à vue non plus.
Mais l'acte, l'hypothèse d'un homicide volontaire, c'est totalement...
D'un accident qui avait mal tourné, d'une correction qui avait mal tourné.
L'intervention d'un être humain.
C'est mais l'acte volontaire, effectivement, c'est pas une hypothèse.
L'intervention humaine, c'est ce qui ressortait le plus ces dernières semaines.
Ou si meurtre, crapuleux, en tout cas pas par le grand-père.
Non,
quelqu'un qui serait passé par là, un prédateur, mais pas le grand-père.
Gilles Rex nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes ancien major à la police technique et scientifique de la police judiciaire de Paris. Maxime Branlstetter, que je salue également. Bonsoir, journaliste police justice à BFM TV. Marion Ménage, bonsoir. Vous êtes avocate pénaliste. Justement, avec vous, Marion Ménage, les qualifications qui ont été retenues pour ces gardes à vue qui sont lourdes, on parle d'homicide volontaire, on parle de recel de cadavres, et c'est vrai qu'on disait, l'hypothèse familiale avait déjà été évoquée, mais on était plus dans la possibilité d'un accident domestique ou d'une correction qui a mal tourné. Là, on ouvre quand même très large.
On ouvre au plus large, ce qui est cohérent.
C'est normal. Est-ce que c'est normal d'ouvrir au plus large?
Ça semble logique. C'est-à-dire que dès lors qu'on part sur une garde à vue, ça semble cohérent qu'on y soit parce que c'est un motif criminel qui motive le placement en garde à vue. C'est-à-dire que pour que des gardes à vue interviennent 2 ans quasiment après la disparition d'Émile, a priori, si on veut que ça fasse sens, c'est qu'il y a des éléments graves et qu'on n'est pas sur... un accident qui aurait mal tourné ou enfin ça semble logique en tout cas que quitte à ce que quelque chose arrive maintenant on soit sur ce type de qualification. D'abord parce que plus on ouvre large, plus ça permet derrière comme avec un entonnoir d'aller de plus en plus étroit et éventuellement d'en sortir avec rien. Si on démarre une garde à vue avec une qualification qui n'est pas très élevée et que finalement on en découvre plus, c'est toujours plus compliqué de rétro-pédaler dans l'autre sens et de venir chercher des qualifications plus importantes qu'on n'avait pas anticipées. C'est plus confortable pour les enquêteurs de partir avec une qualification importante, quitte à fermer des portes et puis finalement à s'apercevoir qu'on s'était un peu emballé.
Gilles Rex, recel de cadavre, ça veut dire que les enquêteurs pensent que le corps a été déplacé, qu'il a été caché, donc ça signifie aussi qu'il va falloir déterminer le trajet du corps du petit Émile jusqu'au sentier de randonnée où ses ossements, une partie de ses ossements avait été retrouvée.
Oui, voilà, donc la complexité de l'affaire, c'est qu'on retrouve des cadavres, des ossements de longs mois après, des ossements dégradés, un corps complètement dégradé. Et comment est-il arrivé là? Où est-il mort? C'est ça la problématique, en fait. Hein. Et le recel, c'est ça. Mais le recel, s'il a été... le recel aussi, ça veut dire que s'il a été tué par quelqu'un, par un humain, en fait, il a été caché pendant un certain temps avant d'être déposé sur ces lieux. Hein, il n'a pas été forcément tué là-bas. Voilà... le problème, c'est que dès le départ, cette affaire a eu des complications. Hein. On se rappelle des chiens qui avaient marqué un endroit dans le village, qui n'avaient pas trouvé la piste d'un départ de l'enfant, hein, qui n'avait pas été suivi. Il y avait quand même des complications dès le départ, quoi. Il y a eu des gros moyens qui ont été mis en place, des battues, beaucoup de recherches. Et il ne s'est rien passé. Donc, effectivement, les enquêteurs, je pense, ont depuis le début eu peut-être des doutes sur le fait que quelqu'un était intervenu. Même si au départ, tout le monde ici, moi-même le premier d'ailleurs, je pensais que ça pouvait être une disparition, une fugue, en fait, un départ de l'enfant volontaire, un accident, quoi, qu'il ait marché jusqu'à l'endroit où on l'a découvert. Ça, c'était les premières pistes.
Ouais. Il y a eu une accélération nette de l'enquête, Maxime, le 13 mars 2025, cette année, il y a quelques jours, puisque les enquêteurs se sont intéressés à cette fameuse chapelle du Auvernais, à cette église Saint-Martin. Ils ont passé au Blue Star, produit qui permet de détecter d'éventuelles traces de sang les alentours, et ils ont repéré cette jardinière qui a été saisie. Mais on nous dit, c'est ce que dit le parquet, c'est que ces gardes à vue n'ont pas été déclenchés par la saisie de cette jardinière, et le parquet parle de phase de vérification et de confrontation des éléments recueillis. Que sait-on aujourd'hui de ces éléments recueillis?
On sait qu'il y en a sûrement beaucoup plus, et qu'il y en a sûrement beaucoup. C'est vrai qu'on a parlé de cette jardinière, et en fait, cette jardinière, On en parle parce que les journalistes l'ont appris et parce que on a su cette histoire et donc on a creusé autour. Mais ce que nous disent la plupart des sources qui travaillent sur cette affaire, c'est que visiblement, ils nous assurent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui continuent à être faites aujourd'hui. Et donc il y a sûrement plusieurs éléments. Ça peut être des écoutes, ça peut être des perquisitions. Il y en a eu aujourd'hui, hein, forcément, là où les quatre personnes ont été interpellées. Il y a eu la saisie de ces véhicules dont cette remorque à cheval se vend. Qui a été saisi. Donc en fait, il y a cette jardinière. Effectivement, on nous dit non, il n'y a pas de lien direct entre la jardinière et les gardes à vue. Mais on se doute qu'il y a forcément des liens, il y a forcément des éléments que visiblement les gendarmes ont réussi à garder secrets, qui ont motivé ces gardes à vue. Et donc, est-ce que ça s'est accéléré ces dernières semaines? Est-ce que ça fait plusieurs mois qu'ils ont recueilli plein d'éléments petit à petit pour aboutir à cette garde à vue? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de déterminant qui vient d'être découvert? Ça, c'est encore le mystère pour nous.
À l'instant, Boris Karlanov, notre journaliste police-justice, qui nous dit à 23h15, l'audition du grand-père est toujours en cours. Et il nous disait tout à l'heure que la troisième audition du grand-père avait commencé à 21h. Donc, il est en garde à vue depuis 6h30 ce matin. Ça veut dire qu'il y a eu donc trois auditions avec des pauses qui ont pu être faites. Troisième audition qui est toujours en cours. Il est 23h21. C'est classique que ces temps d'audition soient aussi longs.
Ça veut dire visiblement que les enquêteurs s'intéressent particulièrement au grand-père. On n'a pas d'informations sur les autres personnes gardées à vue, si elles ont subi deux ou trois auditions. Ça veut dire que l'avocate du grand-père, Madame Colombani, va être très sollicitée pendant les 48 heures qui viennent et qu'elle est auprès de son client, donc le grand-père d'Émile. C'est classique, on va lui poser des questions, on va le laisser se reposer, on va le laisser se restaurer, on va aussi laisser son avocate faire le point avec lui et se reposer elle aussi de son côté. Mais visiblement, les enquêteurs ne le lâchent pas et ont tout un tas de questions à lui poser jusqu'à tard dans la nuit. Et puis peut-être on va le laisser dormir un peu et revenir le chercher à 2 ou 3 heures du matin, au moment où ça pique un peu. Parce que dans cette cellule que nous décrivait tout à l'heure le général Fonbonne avec un bas-flanc de 80 cm, la lumière allumée, c'est difficile de dormir, difficile de se reposer. Et puis, quand on ressort de la cellule et qu'on commence à avoir les vêtements qui collent à la peau, on est moins à l'aise. Donc, effectivement, là, les enquêteurs sont en train de mettre la pression sur le grand-père.
Voilà, les enquêteurs qui mettent la pression sur le grand-père, ce qui s'intéresse, ça ne fait pas de lui un coupable, il reste présumé innocent. On a entendu d'ailleurs
qui doit répondre aux questions.
Son avocate s'exprimer, qui est différent de l'avocat de la grand-mère, parce qu'ils ont des avocats différents dans cette procédure. Les liens au sein de cette famille, leur histoire, la personnalité des membres de cette famille est passée au crible par les enquêteurs. Regardez l'extrait de notre document Ligne Rouge que vous pourrez revoir en intégralité tout à l'heure à minuit.
Les gendarmes doivent envisager toutes les hypothèses, y compris la plus sensible, la responsabilité d'un membre de la famille. Le petit garçon aurait-il pu être victime d'un accident domestique, d'une correction qui tourne mal? La maison familiale du Haut-Vernay et celle de la Bouilladis ont-elles aussi été perquisitionnées? Et la personnalité des grands-parents passée au crible? Des voisins décrivent une grand-mère soumise et discrète et un grand-père austère et rigide.
J'ai jamais vu de gestes déplacés, ça c'est sûr qu'ils sont rigoureux. Ça c'est les enfants qui mangent pas, on voit qu'ils ont été habitués à respecter ce qu'on leur donne, les consignes qu'on leur donne. Bon, point barre.
Une enquête éprouvante pour cette famille soudée.
Il ne faut pas oublier qu'on a une famille qui est dans la douleur, qui a perdu un petit de 2 ans et demi, et qu'il ne s'agit pas de rajouter de la douleur à la douleur.
Je sens des gens qui sont très dignes, mais qui sont effectivement en grande souffrance, et qui, loin de s'accuser mutuellement, essayent au mieux de se soutenir. Et je vois les enfants qui manifestement continuent de faire confiance aux parents, et encore une fois aux grands-parents qui avaient la garde.
Valentin, ce qui ressort de cette enquête de personnalité qui a été menée par les enquêteurs et puis qui a été menée aussi d'une certaine façon par les journalistes, c'est que le grand-père apparaît comme le patriarche de cette famille de 10 enfants avec énormément de petits-enfants, chef de clan autoritaire. C'est comme ça qu'il est décrit. Alors, ça ne fait pas de lui un coupable.
Hein. Bien sûr.
C'est juste pour essayer de comprendre un peu la personnalité de cet homme.
Ouais, alors moi, les personnes que j'ai eues, il y a des personnes qui le connaissent depuis très longtemps et qui ont dit que c'est vrai, que c'était un meneur d'hommes, quelqu'un déjà physiquement assez grand, assez véloce, avec un ton qui porte, avec un cou assez haut. Donc oui, quelqu'un qui en impose, quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui est capable de coups de sang, qui est capable de dire très rapidement à son voisin quand il est mal garé ou quand il a fait quelque chose qui lui déplaît. Et puis à côté de ça, c'est un peu comme nous, on va croiser dans notre rue des gens qui vont dire que on est très sympa, et puis d'autres vont dire qu'on n'a pas dit bonjour jour là, donc on était mal luné. Et c'est vrai qu'on peut trouver au Vernet des gens qui les apprécient beaucoup, qui partagent des moments assez sympas avec eux depuis des années, et d'autres qui, au contraire, s'en méfient dans l'entourage. Ah bah non, ils sont toujours entre eux, puisqu'ils ont une foi profonde, ils ne la cachent pas, ils vont régulièrement à l'église Saint-Martin, le matin, le soir, ils font des chansons, ils font des prières, et ça, naturellement, dans un village très petit et dans un hameau qui l'est encore plus, ça peut surprendre, ça peut même déranger certains habitants qui sont là depuis 5-6 générations et qui sont implantés. Donc, c'est vrai que ça ne passe pas toujours bien, et c'est vrai que Philippe a du caractère. Philippe Vedovini, c'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qu'on peut aussi caractériser comme sanguin, impulsif et qui ne se laisse pas faire, c'est vrai.
On a fouillé aussi son passé, c'est le cas dans toutes les enquêtes, Maxime Brandstetter, et il faut rappeler que le grand-père, encore une fois, c'est juste pour donner des éléments de contexte, mais il avait été placé sous statut de témoin assisté en 2018 dans une affaire de violence sexuelle et physique dénoncée dans une communauté religieuse où il était encadrant.
Oui, effectivement, il était placé sous le statut de témoin assisté, ce qui est un statut plus favorable que la mise en examen. Pour retracer, donc c'était une enquête pour des soupçons de violence et d'agression sexuelle dans une communauté religieuse à Sainte-Croix de Riaumont à Liévin. C'était une enquête sur ses actes. Lui, personnellement, n'était soupçonné que de violence physique. Et comme vous l'avez dit, il a été placé sous statut de témoin assisté, ce qui fait que les juges considéraient qu'il avait moins de chances de... Comment dire, on le présumait moins coupable, si je puis dire, même si... Mais bon, en tout cas, il y avait moins d'éléments contre lui. Après, on avait, à l'époque, découvert des extraits d'audition, et c'est vrai que, on va vous les lire, il déclarait aux enquêteurs, j'ai botté des culs, excusez-moi du terme, et parfois j'ai donné des gifles, mais ce n'était pas souvent, les coups de pied, oui, j'en ai mis au derrière, les gifles, j'en ai mis quelques-unes, les coups de poing, j'en ai mis quelques fois, mais au niveau des épaules, par exemple, il reconnaissait commettre des violences sur des jeunes enfants. Mais voilà, pour ça, c'est juste qu'il était resté sous le statut de témoin assisté. Ça ne fait pas de lui un coupable, mais ça donne un peu de caractère et ça appuie ce que disait Valentin à l'instant. C'est ce profil où, visiblement, frapper un enfant, c'est quelque chose qui est envisageable dans sa personnalité.
Et ce qui est intéressant à Riaumont, c'est que j'avais eu des personnes qui l'avaient côtoyé, qui l'avaient eu comme encadrant. Et il y en a certains qui me disaient, c'est un peu comme ce que j'ai décrit dans le village. Ouais, je m'en méfie. M'inspirait pas confiance, je l'ai jamais senti. Il y en a qui me l'ont dit, puis d'autres qui m'ont dit, non, finalement, ça se passait plutôt bien. On jouait au foot avec lui, il était plutôt sympathique, il venait du sud avec son accent. On sentait bien qu'il voulait peut-être embrasser une carrière d'ecclésiastique, mais qu'il n'était pas vraiment sûr de son choix, il se cherchait un petit peu. Oui, j'ai vraiment eu les deux sons de cloche au moment où j'ai échangé avec des jeunes qui ont fréquenté Philippe Vedovini.
Cette enquête de personnalité, elle est importante, Dominique, parce que ça donne des éléments de contexte, encore une fois. Est-ce que c'est important aussi pour les enquêteurs? Ça permet aussi de donner la ligne à suivre lors de l'interrogatoire, de savoir comment on va prendre la personne qu'on a en face de nous.
Vous savez, ce qui se passe là, c'est garde à vue ce matin. Les gendarmes n'ont pas décidé hier matin de débarquer ce matin dans la famille Vedovino. Vedovini, merci. Ça veut dire que tout a été préparé et bien préparé jusqu'dans les moindres détails. Ça veut dire que les gendarmes connaissent leur client, au pluriel, lui, sa femme et les deux jeunes, qu'ils ont fait appel à des comportementalistes, des analystes comportementaux qui leur ont dit c'est comme ça qu'il faut l'attaquer et surtout pas comme ça. Approchez-le comme ceci ou comme cela. Ça veut dire aussi que, à côté de ça, pour tous les éléments techniques, Gilles en parlait tout à l'heure, cette remorque à chevaux, ce vent, on le voit partir enrubanné dans des feuilles plastiques. On sait bien qu'il n'est pas allé loin. Ils l'ont pas emmené pour l'instant à l'IRCG. Donc déjà, les gendarmes ont installé quelque part, à l'abri des regards des journalistes, une grande tente blanche ou un hangar avec le bus gendarmerie, tous les systèmes de prélèvement et le bus, il a dû mettre 48 heures à descendre. Ça veut dire que tout est prêt. Et quand on s'intéresse, quand les gendarmes entendent le grand-père, c'est pas n'importe quel gendarme dans l'équipe. C'est sûrement un ou deux gendarmes qui sont un peu carapassonnés. Il y en a sûrement un qui fait la même taille que lui. Et des gens qui seront pas ceux qui vont entendre le gamin et la gamine, pardon pour l'oncle et la tante qui doivent avoir une vingtaine d'années. On va pas même mettre les mêmes calibres d'enquêteurs sur ces deux jeunes.
Les gardes à vue étaient programmés, préparés hein, depuis plusieurs jours. C'est ce que l'on nous dit. On va retrouver justement Pierre Barbin.
La liste des questions est prête.
On va retrouver justement Pierre Barbin dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie où les grands-parents, l'oncle et la tante sont entendus depuis 6h30 ce matin. On a plus de précisions sur l'interrogatoire concernant le grand-père. Trois auditions aujourd'hui et la troisième audition est toujours en cours ce soir.
Oui, elle a commencé un petit peu après 21h, donc il y a plus de 2h maintenant. Elle se poursuit. Son avocate est d'ailleurs toujours dans les locaux de la gendarmerie de Marseille. Et c'est vrai, vous le disiez, c'est la troisième audition depuis le début de la journée. Ça fait maintenant plus de 17h que ces quatre personnes sont en garde à vue. Cette troisième audition va sans doute se poursuivre une bonne partie de la nuit. Et c'est sans doute une tactique habituel d'ailleurs, il faut le dire, de la part des enquêteurs et des gendarmes, parce que en certains moments, souvent lorsque la nuit tombe, la fatigue arrive, eh bien les personnes en garde à vue peuvent se confier un peu plus, donner quelques indices parfois, donner des paroles et dire des choses intéressantes dans le cadre de cette enquête. C'est sans doute une tactique opérée actuellement par les enquêteurs de la section de recherche de Marseille. Troisième audition. Il y a eu plusieurs auditions aussi pour la grand-mère. Cela se poursuit actuellement. Ces gardes à vue peuvent être prolongées une fois. Elles peuvent se terminer donc au plus tard jeudi matin à 6h30 précisément, 48 heures donc après leur interpellation au domicile de la Bouilladis. C'est une étape importante après 20 mois d'enquête, 20 mois de mystère. Et cela peut enfin apporter des réponses. On rappelle que c'est la première fois depuis l'été 2023 et depuis la disparition du petit Émile qu'il y a des gardes à vue dans cette affaire.
Merci beaucoup Pierre Barbin avec Camille Martin. Laurent Vallier, vous étiez en train de me dire que la troisième audition lors d'une garde à vue, c'est généralement la plus importante, c'est le moment où on va présenter les éléments les plus solides aux gardes à vue.
D'abord, il fait nuit. La première audition, c'est une enquête de personnalité, ça lui fait raconter sa vie, ça n'aborde pas forcément du tout l'affaire, ni les faits, ni les soupçons. La deuxième audition, ils peuvent commencer à battre un peu des cartes, mais pas toutes. Et puis là, la troisième, on est dans le vif du sujet. Donc c'est vrai que tout ça est filmé, il y a peut-être des profilers de la gendarmerie, des comportementalistes ouais. qui assistent, qui regardent par derrière, et qui ensuite vont aider les enquêteurs qui posent les questions. Donc c'est vrai que s'ils ont, hein, il faut prendre beaucoup de précautions encore, s'ils ont des éléments particuliers, c'est cette nuit qui les mettront face aux contradictions.
Parce que c'est propice aux confidences, la nuit, il y a un état physique, psychologique.
Une garde à vue, il faut jouer sur des leviers. Hein, dans ces leviers, il y a la surprise, ça la surprise c'est le matin. Il y a la fatigue aussi, la fatigue elle intervient maintenant. Et puis il y a les ressorts psychologiques de toute une famille, parce que maintenant ils savent qu'ils sont en garde à vue, dans la pièce d'à côté, sa femme, hein, puis un de ses filles.
Et justement, on sait que le grand-père, l'audition continue, mais on ne sait pas pour l'oncle, la tante, la femme.
On n'a pas de précision. Voilà. En fait, c'est l'avocat du grand-père auditions... qui nous donne des informations via Boris Karlamov. Alors,
parce qu'après tout, le grand-père, voilà, on en parle, mais... Pour l'instant, en réalité, on ne sait pas qui est suspect dans cette affaire. On ne sait pas si ils sont un, plusieurs.
Exactement.
Qui. Et
Et on ne sait pas effectivement qui est soupçonné de recel de cadavres.
Oui, les autres de complicité, il y a aussi un intérêt à faire des auditions assez tardives parce que s'ils savent quelque chose, c'est là aussi qu'ils peuvent lâcher.
Gilles Rex, vous confirmez, les auditions tardives, c'est le moment où les enquêteurs vont justement attaquer, vont passer à la vitesse supérieure.
Oui, il y a une ambiance quand même la nuit. Il y a une ambiance pour ce cadre de garde à vue. Et pour les auditions, c'est toujours des confidences qui peuvent arriver. Et là, ils sont quatre à être entendus, mais les quatre vont passer la nuit aussi à être entendus. Je ne pense pas que le grand-père. Mmh. Et là, il peut y avoir les confrontations. Et on va avancer les points de vue des uns, les points de vue des autres. D'abord, on peut leur proposer isolément le point de vue des uns et des autres. Et puis, éventuellement, les confronter aussi physiquement, si besoin.
À ce stade, il n'y a pas encore eu de confrontation. Ça, ce sont les informations qu'on a eues. Mais selon vous, très probablement, d'ici la fin des gardes à vue, donc jeudi matin ou plus tard, il y aura probablement confrontation.
Alors, pour toute l'expérience que j'ai eues, si, il y a des confrontations, il y a des confrontations.
J'aimerais qu'on aille sur le terrain rejoindre notre journaliste Laura Baquet. Comment réagit-on dans ce village du Haut-Vernay qui a été traumatisé par cette affaire? On est 20 mois après la disparition du petit Émile, 20 mois qu'on attend de savoir la vérité. Comment l'annonce de ces gardes à vue a été accueillie par les habitants, Laura?
Écoutez, ici, beaucoup d'émotions se mélangent dans le village du Vernay où une centaine d'habitants vit au gré du rebondissement de l'affaire et les réactions sont assez variées. Ici, dans le hameau du Haut-Vernay, une quinzaine d'habitations, là où tout a commencé, là où le petit Émile a disparu, le silence pèse et la tension monte. Depuis ce matin, les habitants sont peu enclins à parler aux journalistes et les rares avec qui nous avons pu échanger, eh bien, ils nous ont confié qu'ils n'étaient pas surpris des gardes à vue, notamment celles qui concernent le grand-père du petit Émile, tant ils connaissent son caractère, son fort caractère, son caractère bien trempé, nous disent-ils. Ce qui interpelle...
Priorité au direct, on va écouter l'un des avocats.
De secret sur les questions posées à ma cliente et sur les réponses qu'elle a pu livrer. Comme j'ai pu l'indiquer précédemment, ma cliente espère, encore une fois, que cette procédure parviendra à faire toute la lumière sur le drame qui a endeuillé sa famille. Et comme je l'ai également indiqué précédemment, si cette mesure de garde à vue est l'un des passages nécessaires pour que cette vérité éclate, eh bien naturellement, elle continuera de s'y soumettre.
Comment se sent votre cliente actuellement?
D'autres observations à vous faire, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Comment elle se sent moralement?
Très bonne soirée, merci.
Est-ce qu'elle se poursuit la garde à vue?
Est-ce que c'est prolongé de 24 heures?
Marion Ménage, on a eu aujourd'hui plusieurs prises de parole des avocats. On a eu l'avocate du grand-père, on a eu l'avocat de la grand-mère à deux reprises. À chaque fois, il s'exprime devant les caméras, il fait très peu de commentaires, il ne parle pas du tout du déroulé de la garde à vue, il dit juste que sa cliente espère que les enquêteurs arriveront à obtenir cette vérité. Mais pourquoi communiquer aux journalistes? Pourquoi pendant ce temps de la garde à vue prendre la parole devant les médias?
Alors, c'est compliqué de ne pas le faire, parce que quand il y a effectivement une horde de journalistes devant le commissariat ou devant la gendarmerie, soit on prend une sortie dérobée et on esquive complètement, soit il y a un moment donné, on n'a pas d'autre choix que d'aller se confronter aux micros et aux caméras qui sont là. Et en même temps, on va s'y confronter pour absolument ne rien en dire, puisqu'on est absolument tenu au secret et qu'on ne peut rien dire de ce qui se passe durant une garde à vue. Donc on est tenu tout à la fois au secret professionnel, donc on ne peut pas dire ce qu'ont été les échanges avec notre client. On est tenu au secret de l'instruction. On ne peut pas dire les éléments du dossier dont on aurait deviné ou la teneur au travers des questions, par exemple. Et il y a de toute façon des éléments qu'ils n'ont pas, puisque l'avocat n'a pas accès au dossier le temps de la garde à vue. Donc, ils sont quand même extrêmement limités dans leur prise de parole. Il faut quand même rappeler que là, pour l'instant, le seul qui peut parler, c'est le procureur de la République. Le seul qui est autorisé à prendre la parole et à donner des éléments, c'est le procureur de la République.
Il dit quand même quelque chose, en peu de mots, hein, que sa cliente est contente de pouvoir concourir à la manifestation de la vérité et espère la vérité.
Oui, et puis qu'elle va continuer à se tenir à disposition. Oui, alors en même temps, elle n'a pas tellement de choix.
C'est facile.
Sous-entendu, sa cliente n'est pas ni en cause, ni passée à des aveux. On est plutôt sur la ligne, on lève des doutes et ma cliente, elle va contribuer à lever ses doutes avec les enquêteurs.
Dans la suite du communiqué qu'ils avaient fait au moment des obsèques d'Émile, ils souhaitaient que la vérité soit faite. Ils avaient hésité aussi à prendre la parole dans les médias. Je sais qu'il y a plusieurs médias qui ont essayé de les approcher.
Ils sont restés très discrets quand même,
les
parents.
Ils étaient prêts à le faire. Les grands-parents avaient la volonté de le faire justement pour crever l'abcès. Et
il l'avait fait auprès d'un magazine catholique.
Les parents, mais ouais, pas les grands-parents. Ouais. Là, les grands-parents, eux, avaient cette volonté de le faire et de sortir du bois et de dire ce qu'ils avaient sur le cœur et ce qu'ils avaient vécu depuis plusieurs mois. Là, ils ont l'occasion de le faire et pour eux, cette garde à vue, c'est peut-être le moment aussi de mettre toutes les choses à plat et enfin de dire ce qu'ils ont envie de dire aux enquêteurs depuis des mois.
Pourquoi il y a deux avocats différents ? Pourquoi les grands-parents, pas le même avocat ?
Ça, pour le coup, je pense que c'est une mesure de précaution élémentaire. C'est-à-dire que quand on est avocat, le premier obstacle auquel on peut se coller sur ce genre de dossier, c'est le conflit d'intérêts. C'est-à-dire que si un même avocat accepte de défendre le grand-père et la grand-mère, mais qu'à un moment donné, les lignes de défense, elles divergent, parce que l'un passe aux aveux, pas l'autre, l'avocat ne peut plus défendre personne. Parce qu'il aurait eu à connaître de l'un et de l'autre. Et du coup, il faut se déporter des deux défenses parce qu'on ne peut pas continuer comme ça.
Donc, il faut pas en tirer des conclusions.
Non, pas du tout. C'est juste une mesure de précaution élémentaire. Je pense que n'importe quel confrère aurait fait la même chose.
Jusqu'à ce matin, Maître Isabelle Colombani défendait Anne et Philippe Bédovini. Oui.
Hein. Jusqu'à la garde à vue.
Jusqu'à la garde à vue. Et à 6h01 du matin, elle a dû prendre ses dispositions parce qu'elle a été prévenue à 6h01 du matin. Elle s'est préparée comme tout le monde et elle, en vitesse, elle a rejoint Marseille. Et là, elle a dû trouver l'un de ses confrères pour défendre Anne Bédovini. Et elle a décidé de garder le grand-père.
Ce sont les gendarmes qui, à ce moment-là, conseillent les gardés à vue de prendre un avocat différent.
C'est-à-dire que le déclenchement, pour l'instant, il n'était ni l'un ni l'autre suspect. Donc, elle assistait deux grands-parents éplorés, plutôt dans un positionnement de victime et de partie civile. Je ne sais pas s'ils étaient techniquement constitués partie civile, mais en tout cas, dans un positionnement qui était évidemment commun. À partir du moment où les gardes à vue sont déclenchés, où possiblement ils deviennent suspects et on n'est jamais à l'abri du moindre rebondissement, là, pour le coup, c'est le principe de précaution, si elle veut pouvoir conserver ses clients, de ne pas assister les deux, parce que s'il y en a un des deux qui flanche et finalement, il y a des révélations auxquelles peut-être même elle ne s'attendait pas, elle se retrouverait dans un positionnement très compliqué.
Et en formation de toute dernière minute, Maxime Brandstatter, on apprend, selon nos informations, que la garde à vue du grand-père est bien prolongée de 24 heures.
Oui, c'est une information que nous donne Boris Karlamov du service police-justice de BFM TV. Donc, garde à vue prolongée de 24 heures pour le grand-père. Ça veut dire, on parlait de cette audition tardive, cette troisième audition. Ça veut dire que visiblement les enquêteurs et le magistrat instructeur comptent continuer d'autres auditions demain et peut-être même la nuit prochaine. Ça peut aller au maximum jusqu'à 6 heures après-demain.
Donc jusqu'à jeudi matin, 6 heures, rien d'étonnant qu'il y ait une prolongation de garde à vue.
Elle est prolongée un peu tôt quand même là.
Ouais.
Elle aurait pu être prolongée demain matin. Ouais. Elle est prolongée un peu tôt. Ça veut dire que d'ores et déjà ils savent qu'ils auront besoin de plus d'heures de garde à vue, que ça ne s'arrêtera pas demain matin.
Voilà. Et ils auraient pu lever des doutes tout de suite et arrêter au bout de 24 heures.
Gilles Rex, comment vous l'interprétez ?
Un peu comme Laurent, c'est un peu tôt. D'habitude, quand on fait des prolongations de garde à vue, on va jusqu'au bout des premières 24 heures et après, on enchaîne pour 24 heures supplémentaires. Mais oui, ils doivent se dire...
Pourquoi ils sentent que l'interrogatoire va être beaucoup plus long que... va prendre plus de temps.
Ou alors ils ont des cartes à jouer qui n'ont pas encore dévoilées, qui vont avancer petit à petit, peut-être.
Bon, c'est vrai que c'est une enquête hors norme, donc ils se savent surveiller. Ce matin, les saisies, la perquisition a eu lieu devant les caméras. Donc c'est vrai que c'est...
Peut-être qu'ils attendent aussi quelques résultats de techniques aussi sur les véhicules qui ont été saisis ce matin.
Alors justement, Gilles Rex, j'aimerais qu'on vienne sur ces perquisitions qui ont été menées au domicile des grands-parents, donc à la Bouilladise dans les Bouches-du-Rhône. Les enquêteurs, ils ont saisi une voiture et ils ont saisi une remorque à chevaux. Alors on sait qu'ils sont en garde à vue notamment pour recel de cadavres. Est-ce que dans ce genre d'affaires, c'est assez classique de saisir les véhicules à partir du moment où on sait que le corps a été déplacé? Ou est-ce qu'il y a là peut-être des éléments qui peuvent mener les enquêteurs sur la piste de ce véhicule ou de cette remorque à cheval?
Oui, alors effectivement, les véhicules ont été saisis, ils ont été protégés. On a vu le vent qui était enrubanné. La voiture a été conduite par un gendarme avec une tenue de protection individuelle pour pas polluer encore un peu plus ces indices-là. Et donc, on va vraisemblablement y rechercher des traces de sang. C'est ce qu'ils vont essayer avec le fameux Blue Star qui est du luminol. Hein. C'est une chimie luminescence, une pulvérisation de ce produit qui va réagir sur des molécules de fer en fait qui sont présentes dans le sang.
et qui vont faire ces pulvérisations vont créer une lumière bleutée pendant quelques dizaines de secondes, ce qui va permettre aux opérateurs de photographier les surfaces sur lesquelles il y a eu les réactions, afin de pouvoir, avec des petits cotons-tiges, faire des prélèvements, les envoyer au laboratoire, les analyser, savoir s'il s'agit de sang humain ou animal, et dans le cas où c'est du sang humain, de pouvoir extraire un ADN. Donc vous voyez, il y a tout
et
un temps incompressible.
Et 20 mois après, ces véhicules, ils peuvent encore parler ?
Alors, l'ADN, c'est fragile d'un côté et résistant de l'autre. Ça dépend comment ça a été conservé, dans quelles circonstances on peut retrouver effectivement des petits fragments d'ADN. Si c'est dans un véhicule, alors le van, bon, c'est peut-être un peu plus compliqué vu qu'il y a quand même des animaux qui ont emprunté ce camion là. Mais dans une voiture, dans un coffre de voiture ou dans un habitacle, là, on peut éventuellement, mais même avec des traces effacées, quoi, hein, volontairement effacées, le sang est très résistant et on peut le trouver plusieurs mois, voire plusieurs années après.
Et outre des traces de sang, des traces d'ADN, qu'est-ce qu'on peut rechercher d'autre ? Qu'est-ce que les enquêteurs peuvent trouver d'autre comme
alors,
dans ces
bon,
véhicules ?
Alors, après, il faut quand même que les recherches restent pertinentes par rapport à ce qu'on a à rechercher. Hein. Donc, un gamin qui rentre, dont on trouve l'ADN ou des traces dans les véhicules de ses grands-parents, ça, c'est quand même assez classique. Ça peut rien amener de particulier. Voilà. Donc, en revanche, si on a des taches de
même
sang,
même une trace de sang, ça s'explique.
Ah non, alors là, non. Et puis, ça dépend où elle est localisée. Hein, si c'est dans un coffre,
et la taille de la tache.
Et ça, la taille de la tache, non, effectivement. Là, il faut voir. Mais bon, il faut garder son bon sens. Et c'est là où justement toute la notion humaine des enquêteurs et le flair de ces enquêteurs-là va être très important pour pouvoir mener à bien ces recherches et pour qu'ils s'approchent au plus près de la vérité.
Quand même. Et combien de temps ça met ces analyses pour avoir les résultats de ces analyses ?
Ça peut les prélèvements peuvent aller assez vite. Mais les analyses, c'est un temps incompressible. Ça dépend de la difficulté qu'ils vont retrouver. Et puis, ça dépend aussi du matériel qu'ils ont sur place. C'est Dominique Rizet qui parlait tout à l'heure. Effectivement, les RCGN a un bus laboratoire qu'ils ont dû sûrement amener sur place et qui va permettre de pratiquer des analyses sur tous les prélèvements qui sont faits pour extraire l'ADN. C'est un bus laboratoire qu'ils amènent dans des affaires complexes comme ça. Qu'ils avaient à la Germanwings ou à l'attentat de Nice, par exemple. Hein. Donc, voilà, qui peut permettre d'accélérer Là, on amène un laboratoire sur les lieux. Hein. Mais il y a aussi, s'ils veulent s'en servir aussi, à Marseille, il y a un très bon laboratoire de police, police scientifique. Hein. Donc, après, les moyens peuvent être mutualisés entre la gendarmerie et la police. Ouais. Hein. Ça, on n'en parle pas souvent, mais ils le font régulièrement.
On sait s'il y a d'autres éléments qui ont été saisis lors de ces perquisitions ?
Sûrement. On n'en sait pas plus sur quel type d'éléments, mais ce qui est sûr, c'est que les perquisitions, a priori, ils vont essayer de trouver des éléments qui peuvent incriminer ou apporter des éléments un petit peu plus à la vérité. Donc non, on n'en sait pas plus. Ces éléments, en l'occurrence le vent, la remorque à cheval et les voitures, c'est parce qu'on les a vus passer devant les caméras. Après, qu'est-ce que les enquêteurs ont saisi ? Est-ce qu'ils ont saisi, par exemple, les ordinateurs, le matériel informatique et les téléphones portables ? Ça, c'est assez classique. Normalement, on le fait à chaque fois. Après, on sait que probablement la famille était sur écoute ou surveillée. Après, ça n'empêche pas de saisir le matériel informatique. Est-ce qu'ils ont chopé, attrapé, emmené d'autres éléments ? Ça peut être des outils, ça peut être, peu importe, des choses qu'ils peuvent soupçonner selon les éléments qu'ils ont. Ça peut être très ouvert.
Au niveau de ce qu'on appelle les traces technologiques, c'est-à-dire la téléphonie et les ordinateurs, effectivement, ils peuvent remonter tout un tas de choses intéressantes.
Qu'est-ce qu'on va rechercher typiquement sur les ordinateurs,
de la messagerie, des textos,
des
textos,
aussi, Internet,
oui, mais même des textos, des qui ont été effacés. Hein, vous pouvez remonter des conversations, des historiques de conversations, dans le cadre où un clan se délite, comme vous disiez tout à l'heure, ça peut être intéressant de savoir quand est-ce que des différences sont intervenues et des différends sont intervenus aussi entre eux.
Oui, parce qu'avec les téléphones, vous avez les messageries. Ouais. Les écoutes donnent les écoutes. Mais les écoutes ne donnent pas les messageries, l'historique des messageries. L'historique d'un ordinateur, ça va donner toutes les consultations Internet.
Ouais.
Par exemple, c'est vrai que si quelqu'un qui se met à chercher de la chaux ou qui tape pipianote, comme elle avait fait le Landais, disparition de cadavre, ça va donner un indice. C'est vrai que c'est ce genre de choses qu'ils font. Et puis là, ils vont chercher les connexions entre les membres de la famille, surtout si, comme disait Valentin, il y a des dissensions. Ils vont essayer de chercher les causes de ces dissensions. Pourquoi la famille se sont aussi éventuellement disputées. C'est vrai que ça doit beaucoup les troubler, les enquêteurs, les relations. C'est saisissant, les obsèques, quand même.
Ils ont vu les images.
Vraisemblablement, ils étaient là aussi, les gendarmes. Hein. Donc, les relations entre la famille, les grands-parents et les parents, ça, c'est quelque chose de troublant. Puisqu'ils cherchent, c'est l'objet de ces gardes à vue, hein, si on les résume en une phrase, c'est est-ce que cette famille est porteuse d'un grand secret?
Surtout que ces perquisitions, je passe sous le contrôle de Valentin, il y avait eu des visites domiciliaires, si je me souviens bien, au tout début de l'affaire. Donc, visite domiciliaire, c'est pas une perquisition. Là, c'est un peu la première fois qu'ils peuvent récupérer tant d'éléments importants.
Et l'information de la soirée, la garde à vue du grand-père maternel qui a donc été prolongée de 24 heures. On l'apprend ce soir. Pourquoi les enquêteurs s'intéressent-ils aux grands-parents, à cet oncle, à cette tante? Qu'est-ce qui les a poussés à les placer en garde à vue? Le puzzle est-il en train de s'assembler?